Aristote, Politique, livre 8, chapitre 2. Sommaire. Causes diverses des révolutions. Disposition des esprits. But des révolutions. Circonstances déterminantes. Ces circonstances sont très complexes. On peut en distinguer un plus ou moins grand nombre. L'ambition des richesses, celle des honneurs, l'insulte, la peur, le mépris, l'accroissement disproportionné d'une classe, la brigue, la négligence, les causes insensibles, la diversité d'origine, citations historiques à l'appui de ces considérations. Paragraphe 1. Puisque nous voulons étudier d'où naissent les discordes et les bouleversements politiques, examinons-en d'abord, d'une manière toute générale, l'origine et les causes. Toutes ces causes, on doit dire, peuvent être ramenées à trois chefs, que nous indiquerons en peu de mots. Ce sont la disposition morale de ceux qui s'insurgent, le but de l'insurrection, et en troisième lieu, les circonstances déterminantes qui amènent le trouble et la discorde parmi les citoyens. Nous avons déjà dit ce qui dispose en général les esprits à une révolution, et cette cause est la principale de toutes. Les citoyens se soulèvent, tantôt par désir de l'égalité, lorsqu'ils se voient, tout égaux qu'ils se prétendent, sacrifiés à des privilégiés, tantôt par le désir de l'inégalité et de la prédominance politique, lorsque, en dépit de l'inégalité qu'ils se supposent, ils n'ont pas plus de droits que les autres, ou n'en ont que d'égaux, ou même de moins étendus. Paragraphe 2. Ces prétentions peuvent être raisonnables, comme aussi elles peuvent être injustes. Par exemple, inférieurs, on s'insurge pour obtenir l'égalité. L'égalité une fois obtenue, on s'insurge pour dominer. Telle est donc en général la disposition d'esprit des citoyens qui commencent la révolution. Leur but, quand ils s'insurgent, c'est d'atteindre la fortune et les honneurs, ou bien de fuir l'obscurité et la misère. Car souvent, la révolution n'a eu pour objet que de soustraire quelques citoyens ou leurs amis à une flétrissure ou au paiement d'une amende. Paragraphe 3. Enfin, quant aux causes et aux influences particulières qui déterminent la disposition morale et les désirs que nous avons signalés, elles sont, si l'on veut, au nombre de 7, bien qu'on puisse à son gré en compter encore davantage. 2, d'abord, sont identiques aux causes indiquées plus haut, bien qu'elles n'agissent point ici de la même manière. L'ambition des richesses et celle des honneurs, dont nous venons de parler, peuvent allumer la discorde, sans qu'on prétende pour soi-même ni aux unes ni aux autres, mais seulement parce qu'on s'indigne de les voir justement ou injustement aux mains d'autrui. À ces deux premières causes, on peut joindre l'insulte, la peur, la supériorité, le mépris, l'accroissement disproportionné de quelques parties de la cité. On peut aussi, et d'un autre point de vue, compter comme cause de révolution la brigue, la négligence, les causes insensibles et enfin les diversités d'origine. Paragraphe 4. On voit sans la moindre peine et avec pleine évidence tout ce que l'insulte et l'intérêt peuvent avoir d'importance politique et comment ces deux causes amènent des révolutions. Quand les hommes qui gouvernent sont insolents et avides, on se soulève contre eux et contre la Constitution qui leur donne de si injustes privilèges. Qu'ils fassent d'ailleurs fortune aux dépens des particuliers ou aux dépens du public. Il n'est pas plus difficile de comprendre quelle influence les honneurs peuvent exercer et comment ils peuvent causer des séditions. On s'insurge quand on se voit privé personnellement de toute distinction et que les autres en sont comblés. Il y a une égale injustice quand les uns sont honorés, les autres avilis hors de toute proportion. Il n'y a réellement justice que si la répartition du pouvoir est en rapport avec le mérite particulier de chacun. La supériorité est aussi une source de discorde civile quand s'élève l'influence prépondérante, soit d'un seul individu, soit de plusieurs dans le sein de l'État ou du gouvernement lui-même. Elle donne ordinairement naissance à une monarchie ou à une dynastie oligarchique. Paragraphe 5. Aussi, a-t-on imaginé dans quelques États, contre ces grandes fortunes politiques, le moyen de l'ostracisme? C'est ce que firent Argos et Athènes, mais il vaut bien mieux prévenir dès leur début les supériorités de ce genre, plutôt que de les guérir par un tel remède, après qu'on les a laissés se former. La peur cause des séditions lorsque des coupables, dans la crainte du châtiment, se révoltent, ou lorsque, dans la prévision d'un attentat, les citoyens se soulèvent avant qu'il ne soit commis contre eux. Ainsi, à Rhodes, les principaux citoyens s'insurgèrent contre le peuple pour se soustraire au jugement qui les avait frappés. Paragraphe 6. Le mépris aussi donne naissance à des séditions et à des entreprises révolutionnaires. Dans l'oligarchie, lorsque la majorité exclue de toute fonction publique, sent la supériorité de ses forces. Dans la démocratie, lorsque les riches s'insurgent par dédain de la turbulence populaire et de l'anarchie. À Thèbes, après le combat des œnophytes, le gouvernement démocratique fut renversé parce que l'administration était détestable. À Mégare, la démagogie fut vaincue par sa propre anarchie et ses désordres. Autant en advint à Syracuse, avant la tyrannie de Gélon, et à Rhodes, avant la défection. Paragraphe 7. L'accroissement disproportionné de quelques classes de la cité cause aussi des bouleversements politiques. C'est comme le corps humain, dont toutes les parties doivent se développer proportionnellement pour que la symétrie de l'ensemble continue de subsister, ou bien elle courrait risque de périr si le pied venait à croître de 4 coudées et le reste du corps de 2 palmes seulement. L'être pourrait même complètement changer d'espèce s'il se développait sans proportion, non pas seulement de dimension, mais encore d'éléments constitutifs. Le corps politique se compose également de parties diverses, dont quelques-unes prennent souvent, en secret, un développement dangereux. Par exemple, la classe des pauvres dans les démocraties et les républiques. Paragraphe 8. Il arrive même quelquefois que ce sont des circonstances toutes fortuites qui amènent ce résultat. À Tarente, la majorité des citoyens distingués ayant été tués dans un combat contre les Japyges, la démagogie remplaça la République. C'était peu de temps après la guerre médique. Argos, après la bataille du 7, où Cléomène le Spartiate avait détruit l'armée argienne, fut forcé d'accorder le droit de cité à des serfs. À Athènes, les classes distinguées perdirent de leur puissance parce qu'elles durent servir à leur tour dans l'infanterie après les pertes qu'avait éprouvées cette arme dans les guerres contre la Cédémone. Les révolutions de ce genre sont plus rares dans la démocratie que dans tous les autres gouvernements. Toutefois, quand le nombre des riches s'accroît et que les fortunes s'augmentent, la démocratie peut dégénérer en oligarchie, soit tempérée, soit violente. Paragraphe 9. Dans les républiques, la brigue suffit pour amener, même sans mouvement tumultueux, le changement de la Constitution. À Erée, par exemple, on abandonna la voie de l'élection pour celle du sort, parce que la première n'avait jamais amené que des intrigants au pouvoir. La négligence, aussi, peut causer des révolutions lorsqu'on la pousse jusqu'à laisser tomber le pouvoir aux mains d'hommes ennemis de l'État. À Orée, l'oligarchie fut renversée par cela seul qu'Héracléodore avait été élevé au rang des magistrats. Il substitua la République et la démocratie au système oligarchique. Quelquefois, la révolution s'accomplit par suite des plus petits changements. Et je veux dire, par là, que les lois peuvent subir une altération capitale par un fait qu'on regarde comme sans importance et qu'on aperçoit à peine. À Ambracy, par exemple, le sens, d'abord, était fort léger. À la fin, on l'abolit entièrement, sous prétexte qu'un sens aussi faible ne différait pas, ou du moins différait fort peu, de l'absence totale de sens. Paragraphe 10. La diversité d'origine peut aussi produire des révolutions jusqu'à ce que le mélange des races soit complet. Car l'État ne peut pas plus se former du premier peuple venu qu'il ne se forme dans une circonstance quelconque. Le plus souvent, ces changements politiques ont été causés par l'admission au droit de cité d'étrangers domiciliés dès longtemps ou nouveaux arrivants. Les Achéens s'étaient réunis aux Trézéniens pour fonder Sybaris. Mais, étant bientôt devenus les plus nombreux, ils chassèrent les autres, crime que plus tard les Sybarites durent expier. Les Sybarites ne furent pas du reste mieux traités par leurs compagnons de colonie à Thurium. Ils se firent chasser parce qu'ils prétendaient s'emparer de la meilleure partie du territoire, comme si elle leur eût appartenu en propre. À Byzance, les colons nouvellement arrivés dressèrent un guet-apens aux citoyens, mais ils furent battus et forcés de se retirer. Paragraphe 11. Les Anticéens, après avoir reçu les exilés de Chios, durent s'en délivrer par une bataille. Les Ancléens furent expulsés de leur propre ville par les Samiens qu'ils y avaient accueillis. Apollonie du Pont-Euxin eut à subir une sédition pour avoir accordé à des colons étrangers le droit de cité. À Syracuse, la discorde civile alla jusqu'au combat parce que, après le renversement de la tyrannie, on avait fait citoyens les étrangers et les soldats mercenaires. À Amphipolis, l'hospitalité donnée à des colons de Chalcis devint fatale à la majorité des citoyens qui se virent chassés de leur territoire. Dans les oligarchies, c'est la multitude qui s'insurge parce qu'elle se prétend, comme je l'ai déjà dit, lésée par l'inégalité politique et qu'elle se croit des droits à l'égalité. Dans les démocraties, ce sont les hautes classes qui se soulèvent parce qu'elles n'ont que des droits égaux malgré leur inégalité. Paragraphe 12. La position topographique suffit quelquefois à elle seule pour provoquer une révolution. Par exemple, quand la distribution même du sol empêche que la ville n'ait une véritable unité. Ainsi, voyez à Clazomène l'inimitié des habitants du Kirt et des habitants de l'île. Voyez les Colophoniens, les Notiens. À Athènes, il y a dissemblance entre les opinions politiques des diverses parties de la ville, et les habitants du Pirée sont plus démocrates que ceux de la cité. Dans un combat, il suffit de quelques fossés à franchir et des moindres obstacles pour rompre les phalanges. Dans l'État, toute démarcation suffit pour y porter la discorde. Mais le plus puissant motif de désaccord, c'est la vertu d'une part et le vice de l'autre. La richesse et la pauvreté ne viennent qu'après. Puis enfin, bien d'autres causes, plus ou moins influentes, et parmi elles, la cause toute physique dont je viens de parler.